focus sur la LPO, série découverte de cet organisme œuvrant pour l'environnement avec le concours de la Ligue de protection et de la biodiversité du département de la Drôme. Aujourd'hui, pour ce quatrième épisode, Alexandre Movia concernant les corridors biologiques et Éric Gorgeau, service civique. Interview de Alexandre Movia sur le site Gautron de la LPO Drôme à Saint-Marcel-les-Valences. Alexandre Movia, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, je vous laisse présenter votre fonction au sein de la LPO. On rappelle que donc, nous sommes ici, un peu c'est votre lieu, votre QG, Gautron. Hein. Puis ensuite, après, vous pouvez rayonner un peu plus largement autour de Saint-Marcel-les-Valences. Alors, quelle est votre fonction à la LPO?
Alors, bon, moi, je suis salarié à la LPO Drôme depuis maintenant 8 ans. Et mes thématiques aujourd'hui, c'est principalement tout ce qui concerne les corridors et les trames vertes et bleues, donc tout ce qui va concerner le déplacement des espèces de faune sauvage.
Alors voilà un sujet qui est intéressant dans le sens où plus l'urbanisation galope, plus vous avez un peu de travail. Non, c'est pas un peu ça dans le principe?
C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus de boulot parce que les espèces ont besoin de se déplacer pour pouvoir continuer à vivre. Et les hommes ont tendance à construire de plus en plus aussi parce que voilà, c'est le développement qui fait ça. Donc on essaie de faire du développement durable et de permettre à la fois aux hommes de se déplacer et aux animaux de continuer à le faire comme ils le faisaient auparavant.
Parce que c'est vrai que quand il y a une structuration de quoi que ce soit finalement sur le territoire, on n'imagine pas en tâche de fond que ça peut faire des forteresses de passage pour les animaux.
Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire prendre conscience aux différents aménageurs d'infrastructures. Alors parfois c'est l'inverse, c'est même eux qui viennent nous voir pour qu'on leur propose des solutions. Pour vous donner quelques exemples, on est amené à travailler avec la société Vinci sur les autoroutes, qui ont souhaité créer des passages à faune sur les autoroutes, également avec EDF, notamment au niveau des barrages, puisque on parle souvent au déplacement des animaux sur la trame verte, mais il y a également les animaux aquatiques comme la loutre et le castor qui peuvent être amenés à se déplacer et à être bloqués par certains grands ouvrages.
D'accord. Donc, d'où trame verte et bleue pour signifier bien la terre et l'eau.
Voilà. Alors après, trame bleue, ça va aussi bien sûr prendre en compte les poissons, tout ce qui est poissons migrateurs notamment. On a la chance sur le Rhône d'avoir un laperon, même s'il en reste plus beaucoup qui est présent, qui est une rareté nationale. Après, il y a également l'anguille, le saumon qui fait son retour sur certains cours d'eau de France, qui est pas bien présent dans le Rhône.
Une intervention de votre part, comment ça se passe en général? Donc il y a des sociétés qui peuvent, à travers des études d'impact, faire appel à vos services?
Alors là, ce qui s'est passé, c'était plutôt des programmes de requalification. Par exemple, avec la société Vinci Autoroute, la 7, c'était une des plus vieilles autoroutes de France, qui avait été réalisée dans une période à laquelle on ne prenait pas vraiment en compte l'environnement. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ça, ça a besoin d'être pris en compte parce que, ne serait-ce que même par rapport au danger de collision, une autoroute qui est mal faite, c'est plus d'animaux qui vont pénétrer sur les voies, c'est plus de danger pour les automobilistes, alors qu'au contraire, si on prend ces précautions en avance, les animaux peuvent traverser et on minimise le risque d'accident. Avec EDF, c'est un partenariat qui est arrivé grâce à notre réseau LPO national. Et en fait, une convention a été signée entre EDF et la LPO. Et on s'est rendu compte que dans la Drôme, il y avait quelque chose à faire peut-être avec la LPO Drôme et EDF, puisque notamment sur le cours d'eau de l'Isère, il y a énormément de barrages, certains broyants notamment, et sur lesquels la loutre et notamment le castor, parce qu'en fait la loutre est en train de revenir, mais le castor est bien présent dans le département. Le castor avait beaucoup de mal à coloniser le cours d'eau de l'Isère à cause de ces barrages. C'était le dernier point bloquant du département.
Comme ça, vous arrivez à reconstituer, à redonner du sens à des milieux, on peut dire, qui ont été aussi séparés de longue date. On pense l'autoroute A7, ça a sectorisé des populations.
Ah oui, complètement. Il y a des secteurs qui ont été cloisonnés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se rend compte que la faune peut réagir assez rapidement. Quand on parle de la faune, on pense à la grande faune, mais il faut bien sûr penser à la petite faune que nous, on étudie très attentivement. Je pense par exemple aux batraciens, aux salamandres, aux grenouilles, aux crapauds, qui sont des espèces qui se déplacent peu et difficilement et qui sont peut-être les plus impactées par ces grandes infrastructures, alors que des animaux comme des chevreuils ou des sangliers vont avoir moins de difficultés à emprunter des ponts routiers, par exemple. Pour ce qui est de l'Isère, dont je vous parlais du castor notamment, ça c'est quelque chose qui n'a pas encore été réalisé. On est en cours de travail là-dessus. Mais pareil, on espère pouvoir décloisonner certains tronçons de l'Isère sur lesquels on se rend compte qu'il n'y a absolument pas de castor en amont d'un barrage, alors qu'en aval, on voit des traces de partout et que le castor est un peu une espèce parapluie. Grâce à lui, il va créer des milieux qui vont être favorables à l'ensemble de l'écosystème.
Vous avez des astuces pour justement qu'il s'agisse de autoroutes, des milieux plutôt aquatiques. Donc c'est un petit peu là où vous intervenez avec toutes vos techniques aussi pour parer à des situations.
Alors il faut bien sûr que les ouvrages soient bien adaptés à chaque espèce. Pour un passage supérieur, un écopont, un passage à faune, on va faire en sorte qu'il y ait à la fois des andains, c'est-à-dire des blocs rocheux, des blocs de bois qui puissent permettre aux reptiles de se faufiler, des petites mares qui puissent permettre aux amphibiens de venir coloniser certains secteurs, des zones de pelouse rase pour les insectes, pour créer aussi des zones de chasse. Créer des lisières également pour les chauves-souris, pour que les chauves-souris puissent continuer à franchir l'ouvrage en longeant une haie, parce que sinon c'est des espèces qui peuvent être amenées à s'arrêter et à faire demi-tour s'il n'y a pas de haie par exemple. Voilà, en fait on s'adapte à chaque espèce animale. Et aujourd'hui là on se lance dans un nouveau travail, hein, c'est quelque chose qui est en train de voir le jour, ça s'appelle des contrats verts et bleus, c'est quelque chose notamment mis en œuvre dans le département de la Drôme sur le secteur du Grand Rovaltin, donc Valence-Romans. C'est une étude globale de la trame verte et bleue sur un secteur en particulier, sur laquelle, par exemple, on va décider, nous, d'étudier certaines espèces en priorité. Alors, par exemple, dès cette année 2016, on va étudier le hérisson pour savoir si les déplacements en milieu urbain et périurbain sont possibles pour cette espèce-là, qui est un bon indicateur sur certaines communes. On va s'intéresser également aux collisions par rapport aux chauves-souris sur des routes départementales et nationales, donc on va encore en apprendre un peu plus, ainsi qu'également par rapport à des espèces beaucoup plus petites comme les tritons, sur lesquels on va essayer de mesurer des distances de déplacement, mesurer des populations. Voilà.
Là, vous évoquiez justement l'instant Rovaltin, ça c'est aussi un bon exemple d'urbanisation qui s'est effectuée très rapidement à une échelle assez, assez large. Vous pensez notamment sur cet exemple-là que tout ce qui est des précautions au niveau environnemental de ce type de corridor, tout ça a été respecté?
Alors, justement, le secteur du Rovaltin a pour vocation de faire un développement dit durable. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en pleine réflexion, puisque justement, la route nationale qui relie Valence à Romans est un obstacle majeur au déplacement d'espèces entre le Piémont du Vercors et le département de l'Ardèche. Et aujourd'hui, on va réaliser une étude pour. Alors tous avec un partenariat assez conséquent, hein, puisqu'il y a la direction des routes, il y a les communes, il y a plein de partenaires qui vont s'associer pour voir sur quel secteur il faut réaliser des aménagements ou il faut éviter d'urbaniser pour pouvoir permettre aux animaux de continuer à se déplacer sur ce secteur-là, qui est vraiment bientôt un axe d'urbanisation très long qui va relier la ville de Valence à Romans, quoi, dans quelques années.
Après, ça, au niveau biodiversité sur ce secteur-là, il n'y aura plus rien du tout s'il n'y a plus de petites passerelles de part et d'autre, c'est ça?
Et ben on s'est rendu compte, voilà, que en fait plus l'espace de vie d'un animal est cloisonné, moins cet animal a de chances de survivre dans le temps. Donc l'idée de créer des connexions, c'est de permettre aux animaux de pouvoir échanger d'une population à l'autre. Alors après, ça va impliquer des choses comme ce qu'on appelle des flux de gènes, c'est-à-dire que si on isole une population, ben, ça fait de la consanguinité, c'est jamais bon pour une espèce. Alors qu'au contraire, si on permet des passages entre deux noyaux de population, ça permet des échanges d'individus et ça permet dans le temps que les populations se maintiennent plus durablement.
D'accord. Et après, vous évaluez, vous aussi, l'endroit qui est le plus stratégique. Ça, c'est tout un travail d'étude au préalable, comportement des animaux, leur déplacement.
Oui, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode cartographie. Maintenant, on a des outils cartographiques qui nous permettent d'étudier les secteurs les plus favorables pour le déplacement de la faune. Mais tout ça, après, ça mérite d'être allé vérifier sur le terrain. Mmh. Alors, sur le terrain, ça va être la recherche d'indices de présence, prendre des photos, analyser le terrain, analyser les continuités. On a un outil qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui en France, c'est les pièges photographiques. C'est ces fameux appareils photo qu'on va positionner, qui vont déclencher au mouvement et qui peuvent permettre de valider la présence d'individus sur des secteurs et de voir qu'il y a vraiment du franchissement. Alors ça marche que sur la grande faune. Pour la petite faune, c'est pas aussi évident. Pour tout ce qui est amphibien, par exemple, là, il faut les rechercher soi-même. Mais voilà, c'est des choses qui sont de plus en plus mises en place. Oui. Le travail qui a été réalisé par exemple sur la 7, l'objectif c'est pas de faire un passage et de pas voir si ça marche. Hein. Bien sûr derrière on va installer des dispositifs. Aujourd'hui on est en train de tester des dispositifs à l'aide de tapis. C'est des tapis, quand des animaux, même des animaux très légers qui vont faire quelques grammes vont marcher dessus, ça va déclencher un appareil photo, ce qui nous permet de suivre par exemple le déplacement d'animaux très petits comme des mulots, des salamandres, des crapauds, et qui vont déclencher pour également des animaux plus gros comme la fouine, le renard, le blaireau, la martre, voilà.
D'accord. Après, il s'agit de faire des fois des tunnels ou sous l'autoroute, ou comment ça peut se passer pour faire des échanges?
Oui, il y a différents types de passages. Donc, il y a ce qu'on appelle les écoponts, qui sont des grands passages à faune qui passent par-dessus l'autoroute, et ce qu'on appelle éco-duc, donc là, qui passent en dessous l'autoroute, qui sont forcément des passages beaucoup plus réduits, qui vont pas être forcément empruntés par les grands animaux, quoique on a eu des surprises dans d'autres départements de France où on a vu des chevreuils passer dans des tunnels relativement étroits. Donc la faune, heureusement pour elle, s'adapte assez bien. Et après, on a tout ce qui est passes aquatiques, donc il peut être des passes mixtes à poissons et à mammifères semi-aquatiques comme le castor.
Voilà. Et ce qui est valable pour les autoroutes, c'est valable aussi pour les lignes de chemin de fer?
C'est valable pour toutes les infrastructures linéaires, donc c'est vraiment des choses qui... C'est en plein boom en ce moment, hein. Il y a des grands colloques internationaux, il y en aura un à Lyon au mois d'août par exemple, où les grands gestionnaires d'infrastructures européens et certaines associations aussi vont se réunir pour voir un peu à l'échelle européenne tout ce qui est fait. Il y a des passages qui peuvent être des passages surdimensionnés quand il s'agit d'espèces particulièrement emblématiques. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on avance de plus en plus et on apprend de plus en plus de choses, mais il y a encore matière à travailler et à creuser. Je fais un petit appel aux auditeurs pour vous signaler qu'on a une base de données qui s'appelle la base FaunDrome, donc sur le site internet faune-drome.org. Donc c'est ouvert à tous, vous pouvez signaler tous les secteurs où vous avez observé des animaux, notamment des animaux qui ont été morts liés à des collisions avec les infrastructures. Qui tentaient de franchir, donc si vous avez retrouvé un animal, malheureusement, qui est aplati comme une crêpe, ben, vous le saisissez. Nous, derrière, ça nous permet de faire des analyses. Et derrière, d'anticiper pour proposer à certains gestionnaires des solutions d'aménagement pour éviter que ce type de cas se reproduise. Voilà.
Et vous sentez qu'il y a une sensibilisation maintenant avec l'urbanisation, qu'il y a quand même du progrès, une prise en compte un peu plus importante qu'à l'époque?
Aujourd'hui, il y a une prise en compte qui est en train de se faire, notamment grâce à des programmes régionaux, comme le schéma régional de cohérence écologique, qui est donc ce qu'on appelle SRCE, qui essaye justement de garder le lien entre tous les noyaux de vie en préservant des corridors entre chaque département de la région. Et puis, à des échelles beaucoup plus petites, il y a des choses comme les plans locaux d'urbanisme qui permettent de prendre en compte certains axes de déplacement de la faune sauvage. Mais pour ça, voilà, il faut qu'on ait de la connaissance et il faut réaliser des études environnementales ou bien tout simplement que les gens, les particuliers, les habitants d'un secteur nous fassent remonter l'information comme quoi il y a des secteurs qui sont vraiment vitaux pour la faune.
Ça pourrait faire partie d'un cahier des charges en termes de législation par la suite pour tout ce qui concerne l'urbanisation, la construction de cette prise en compte.
En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire puisqu'on s'implique de plus en plus dans les plans locaux d'urbanisme. Alors, on a participé de façon bénévole en plus. On a utilisé notre base de données pour présenter des données faunistiques sur certaines communes et pour faire une prise en compte des enjeux environnementaux lorsque les PLU sont révisés. Donc en fait, on intervient pour aider, entre guillemets, les communes, ou en tout cas leur montrer qu'il y a des choses à préserver sur leur commune.
Alors vous avez aussi chacun votre spécialité, vos compétences, vos passions. Et en dehors des études, de votre travail, pour dire quotidien, vous avez aussi bien d'autres passions que vous aimez développer à la LPO?
Alors, avec un petit groupe de bénévoles motivés, on contribue à l'animation d'un groupe qui s'appelle le groupe RPTO. Donc, RPTO, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à tout ce qui rampe et notamment aux reptiles, donc qui sont pas souvent, malheureusement, par méconnaissance, plutôt mal aimés. Donc, ça va être les serpents, les lézards, et ainsi que les amphibiens, donc tout ce qui concerne les tritons, salamandres, crapauds, grenouilles, toutes les bêtes qu'on n'aime pas forcément voir, enfin que le grand public n'aime pas forcément voir, mais que nous on adore. On essaie de réaliser des sorties à peu près tous les mois avec ce petit groupe de passionnés pour aller dans certains secteurs du département de la Drôme, qui est particulièrement riche, hein, notamment en espèces, hein, puisqu'on a dans la partie sud les espèces méridionales qui remontent de Méditerranée, et au contraire, dans la partie nord du département, on a d'autres espèces, donc ils vont pas forcément se rencontrer, mais ce qui fait qu'il y a une assez grande diversité de reptiles et d'amphibiens au niveau du département. On a 20 espèces de reptiles et 15 espèces d'amphibiens. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant et qui imaginent qu'il y a seulement deux ou trois espèces seulement. Après, on est à la recherche de toute personne qui est intéressée par le sujet. Vous pouvez aller consulter sur le site internet de la LPO Drôme la page du groupe RPTO sur laquelle le calendrier des sorties est listé. Et vous pouvez venir contribuer avec nous à rechercher certaines espèces. Alors ça peut être, si vous n'aimez pas les serpents, ça peut être les tortues aquatiques, hein, parce qu'il y a des tortues aquatiques dans le département de la Drôme. Enfin voilà, on réalise toute une série d'actions tous les mois, et voilà, vous êtes les bienvenus.
Ça peut concerner toutes et tous, pas forcément spécialistes des serpents, même si on n'y connaît pas grand-chose, on s'intéresse comme ça un peu de loin, ça n'empêche pas de participer. Ou alors c'est pour spécialistes.
Ce qui se passe tous les mois, c'est pas des animations, hein. C'est des sorties de recherche collective où on va aller essayer d'observer les animaux. On n'est pas là, même si bien sûr, les personnes débutantes peuvent venir avec plaisir, mais c'est pas une sortie de découverte. À côté de ça, si vous souhaitez découvrir les reptiles et les amphibiens, il existe des animations. Pour vous donner un exemple, pour la fête de la nature, moi je réalise une animation à côté de Romans, sur la commune de Mours, pour faire découvrir, là pour le coup, aux gens, les reptiles et les amphibiens du nord du département de la Drôme.
D'accord.
Voilà.
Et là, ça peut plutôt représenter des sorties à thème ou vous fixez un peu des objectifs?
Oui, alors oui, on se fixe des objectifs. Ça va être aller découvrir les espèces méridionales, par exemple du côté de Bulles-et-Baronnies. Au contraire, aller découvrir les espèces montagnardes qui habitent dans le Vercors, ou encore rechercher des espèces qu'on n'a pas encore trouvées mais qu'on pense être présentes, comme par exemple la vipère d'Orsini, qui est un des serpents les plus rares d'Europe, qui est menacé de disparition et qui est peut-être, alors qui est présent sur le Mont Ventoux. Il faut dire que la Drôme, on n'est pas très loin du Mont Ventoux, donc on a repéré une ou deux montagnes qui pourraient peut-être bien héberger cette espèce-là, mais on l'a pas encore trouvée, donc on devrait réaliser un week-end au cours du mois de juin pour aller rechercher la vipère d'Orsini notamment.
D'accord, ce serait une coche à l'image des naturalistes par rapport aux oiseaux.
Exactement, alors ça serait même une super coche.
Globalement, vous connaissez toutes les espèces qui résident sur le département de la Drôme.
Alors, y a différentes choses. Il y a des espèces qui sont particulièrement difficiles à identifier. Je pense notamment au complexe des grenouilles vertes. C'est des grenouilles qu'on peut voir souvent quand on se balade au bord d'un étang ou d'un cours d'eau. Il y a des grenouilles qui vont sauter à l'eau, qui se chauffent souvent au soleil. Ces espèces-là, elles se divisent en trois espèces qu'il est assez difficile à déterminer, même pour un spécialiste à l'œil nu. Et donc là, on a encore des découvertes à faire, peut-être grâce à la génétique notamment. Un autre exemple, comme quoi on en apprend tous les jours, le crapaud commun, le fameux gros crapaud qu'on peut voir dans son jardin. Une étude a montré que cette espèce est en fait divisée en deux espèces différentes. Et il est possible qu'en Drôme, on accueille en fait deux espèces différentes et non une seule. Et donc cette année, on va réaliser également des prélèvements d'ADN sur certains individus pour les faire remonter à un laboratoire de Montpellier qui va nous dire si la Drôme a une ou deux de ces espèces-là.
D'accord.
Voilà. Et à côté de ça, on a des espèces qui sont connues mais qui sont particulièrement menacées. Je pense notamment à certains amphibiens qui vont pas intéresser grand monde mais qui peuvent être très menacés, comme le Alors attention au nom, le pélobate cultripède, rien que
Wow.
ça, qui est une espèce qui est présente aujourd'hui que sur, que je vous dise pas de bêtises, quatre sites du département de la Drôme et qui plus est sont tous les quatre relativement menacés. Donc on essaye d'aller sensibiliser les communes pour leur faire prendre conscience qu'il y a une
Ah
espèce
oui.
exceptionnellement rare sur leur commune.
Prendre en considération. Alors, ça ressemble à quoi cet animal?
Alors, ça ressemble un peu au fameux crapaud commun que vous avez dans votre
D'accord.
jardin. Sa particularité, c'est que sur ses deux pattes arrière, il a un petit tubercule noir, on appelle ça un couteau, qui est dur comme un ongle et qui lui permet de creuser et de s'enfouir, de s'enterrer complètement dans le sol. C'est-à-dire que quand il sent que les conditions météo commencent à lui devenir défavorables, en fin de nuit par exemple, quand il a fini de chasser, il va s'enterrer littéralement et se retrouver sous le sol. Et il va pouvoir attendre comme ça les prochaines pluies. Et quand il y aura les prochaines pluies, il va s'extraire du sol et remonter à la surface.
D'accord.
Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à voir. Il faut vraiment connaître les secteurs, connaître ses habitats.
Pourquoi elle est menacée d'ailleurs, cette espèce?
Eh bien, parce qu'en fait, elle est présente que sur très peu de sites. Et ces sites-là peuvent très facilement disparaître. Et aujourd'hui, notamment avec les questions d'urbanisation et de voirie, les animaux ont plus trop d'espace pour se déplacer. Un amphibien, il va mettre peut-être 10 minutes à traverser une route. Malheureusement, en 10 minutes, il risque d'y avoir au moins 10 véhicules qui vont passer et qui risquent de l'écraser. Donc, c'est des secteurs qui sont de plus en plus isolés. Et justement, les populations ne peuvent plus communiquer entre elles. Et en plus, la Drôme, alors c'est à la fois une chance et à la fois c'est un peu difficile pour les espèces. On est à l'influence de plusieurs secteurs climatiques, ce qui fait qu'on a des espèces qui sont en limite d'air. Alors là, c'est un peu scientifique tout ça, mais quand une espèce disparaît, elle disparaît d'abord à sa périphérie et en se resserrant vers le noyau de sa population. Et nous, comme on est en périphérie des noyaux de la plupart des espèces, ben, les espèces menacées ont tendance à disparaître en premier à partir du département de la Drôme. Voilà, et
D'accord.
c'est le cas de ce fameux pélobate cultripède. Tous les mois d'août, donc généralement c'est le dernier vendredi du mois d'août, chaque année avec le groupe Herpéto, on fait un recensement dans la ville de Valence d'un petit lézard qui fait partie de la famille des geckos. Donc c'est ces fameux lézards qui s'accrochent au mur qu'on peut trouver au bord de la Méditerranée ou dans des pays plus chauds. Et ce gecko-là, c'est la Tarente de Maurétanie. Et c'est un gecko qui se maintient en Drôme que dans les villes. Et probablement parce qu'il est arrivé grâce aux déplacements humains, grâce aux trains, grâce aux véhicules. Moi, pour la petite anecdote, j'en ai trouvé un sous mon capot en voulant changer le phare de ma voiture, alors que je revenais de Montpellier, donc probablement il est
D'accord.
monté en cours de route. Voilà. Et tous les ans, on essaye de mesurer un peu les zones de présence de ce petit lézard qui finalement est un allié de l'homme, puisqu'il va chasser les moustiques autour de lampadaires et tout ça. Alors lui, pour le coup, il n'est pas menacé, parce qu'en fait, au contraire, il est arrivé dans la région grâce à l'homme, mais c'est une espèce française qui est présente plus dans le sud. Mais voilà, on s'intéresse à lui parce que c'est quelque chose d'assez marrant, quoi.
Et exclusivement urbain,
Et exclusivement urbain dans le département de la
donc.
Drôme. Voilà.
Merci pour cette précision. Mais merci beaucoup, Alexandre Movia. C'était Alexandre Movia, chargé d'études corridor biologique du département de la Drôme pour la LPO. Nous poursuivons ce feuilleton et ce quatrième épisode avec Éric Gorgeau, œuvrant pour la LPO de la Drôme en tant que service civique. Comme Pierre, tu as aussi une mission de service civique, hein, au sein de la LPO. Avant d'aborder les missions, etc., quelle est l'impression ? Parce que déjà, tu n'es pas spécialement du secteur de Valence et autour.
Non, je viens d'arriver, donc première impression, très bien. L'équipe m'a super bien accueilli, tout le monde a l'air sympa. Et la mission, on m'a un peu expliqué, et ça a l'air vraiment intéressant ce que je vais faire par la suite. Déjà, le premier travail que j'ai fait était vraiment intéressant. Si vous voulez, je peux vous expliquer en quoi ça consiste.
Alors, juste avant, tu viens de quelle région, en fait ?
De Toulon, dans le Var.
D'accord. Donc, tu connaissais un petit peu le secteur de la Drôme ?
Je ne suis jamais venu dans la Drôme, c'est la première fois que je viens. D'accord. Je passais déjà en voiture, mais je ne me suis jamais arrêté.
Okay. Bon, alors, ben, ça y est, c'est déjà parti pour des missions et toutes sortes de perspectives.
Tout à fait. Donc, en ce moment, je suis sur la mission sauvegarde des amphibiens, donc qui se déroule depuis lundi que j'ai commencé jusqu'à la fin avril. Donc en gros, on est sur le nord de la Drôme et on a installé en fait des pièges à amphibiens pour voir les compter, les sexer, donc déterminer leur sexe et déterminer aussi les espèces. Donc ce qui nous donne, c'est un suivi en fait annuel qui permet d'un peu voir et calculer par année le pourcentage d'amphibiens qui subsistent dans la zone, quoi.
D'accord. Donc tu es affilié vraiment à ce secteur autour des amphibiens ?
Pour l'instant, j'ai aussi des missions complémentaires sur sur l'ornithologie, donc sur tout ce qui est rapaces. Comme ça, aujourd'hui, je suis allé dans un secteur de Soue. On a prospecté pour trouver les couples de faucons pèlerins et ou essayer de trouver leur de nidification.
Tu es en lien avec des chargés d'études, de suivi.
Je suis surtout en lien avec ma tutrice, donc chargée de mission faune, qui est ma tutrice, donc je travaille beaucoup avec elle. Ma mission essentiellement, ça consiste à l'appuyer dans son travail. Ainsi qu'appuyer le reste de l'équipe quand même.
Alors, toi, qu'est-ce qui t'intéresse à la LPO ?
Déjà, le travail de terrain. J'aime beaucoup tout ce qui est travail de terrain, être en pleine nature sauvage, pouvoir contribuer à la sauvegarde d'espèces naturelles qui sont assez emblématiques dans ce territoire et assez rares aussi. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours assez plu depuis assez petit. Enfin, c'est assez naturel pour moi, j'adore faire ça.
Tu as une formation autour de l'environnement ?
Oui, donc j'ai effectué un DUT génie biologique option génie environnement à Toulon. Et j'ai aussi une licence professionnelle en gestion et aménagement durable des espaces et des ressources. D'accord. Que j'ai fait à Perpignan.
Et il y a un domaine qui te plaît en particulier dans l'environnement ? Il y a des voies dans lesquelles tu voudrais aller ?
Ce qui me plairait, c'est donc après, j'ai eu dans l'idée, donc après le service civique, de continuer dans un master professionnel en tant qu'ingénieur en écologie et gestion des milieux naturels. Donc moi, ce qui me plairait, ça serait travailler, si possible, dans tout ce qui est parcs nationaux, réserves naturelles, dans des travaux de terrain, mais aussi de gestion de territoire, donc travailler en collaboration avec les acteurs, les acteurs politiques, sensibiliser les gens, donc tout ça. Ouais, donc ça correspond un petit peu à ce travail, mais plus que ce que je fais en ce moment. Mais j'aimerais insister aussi sur tout ce qui est gestion d'un territoire et d'aménagement. Pour préserver et pourquoi pas faire cohabiter voilà l'humain et la nature quoi.
OK. D'accord. C'est ce qui te plaît particulièrement, c'est ce rapport homme nature.
C'est ça. Ouais.
Et dans l'environnement, puisque tu évoquais un DUT master, il y a de plus en plus de filières comme ça qui se spécialisent.
Ça se développe pas mal, ouais, depuis déjà quelques années, ça commence un peu à se développer et effectivement, oui, il y a des offres des emplois qui se créent pour ce domaine. D'autres emplois qui commencent à se fermer, qui sont déjà pris, très pris, notamment sur tout ce qui est parcs nationaux, ça c'est malheureusement c'est déjà très pris, c'est très convoité. Mais d'autres emplois se libèrent dans tout ce qui est notamment développement durable, maîtrise des énergies, donc énergie verte. Donc c'est assez intéressant aussi pour la suite.
Ça offre un champ de perspectives.
Exactement, d'autres perspectives. Moi je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est développement durable, gestion des déchets, l'agriculture, comment se nourrir autrement. Donc c'est assez intéressant. D'accord. C'est assez vaste le domaine.
Oui. En matière de transition énergétique, il y a de quoi faire.
Exactement, il y a de quoi faire. Il y a pas mal de petits projets qui se créent dans les villes et qui se mettent à grossir et à interpeller les politiques. Donc ça présage du bien pour l'avenir, je pense.
D'accord. Alors donc le service civique à la LPO, puis ensuite donc tu rembarques un petit peu pour quelques études pour parfaire un peu ta formation.
En gros, donc après ma licence pro, j'ai décidé de prendre une année un peu de césure. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce service civique pour avoir un complément de connaissances et de compétences. Donc je savais que le service civique pouvait apporter au sein de la LPO pouvait apporter ce que je voulais, du travail de terrain, donc parce que c'est quand même un vrai travail, du travail de terrain, des rapports, de la cartographie sur ordinateur. Donc ça peut apporter vraiment une plus-value pour les masters.
puis ouais, effectivement, tout ce côté un peu très matériel.
Ce côté terrain qui est très intéressant, être en contact avec des espèces qu'on peut manipuler, qu'on peut sauvegarder. Pour moi, ça m'intéresse beaucoup.
Et bien, merci beaucoup, Eric.
Pas de problème, merci.
Fin de ce 4e épisode. Série découverte en 5 volets de la LPO, Ligue de protection des oiseaux et de la biodiversité de la Drôme. Nous étions en compagnie de Alexandre Movia et Éric Gorgeot.